Bonsoir. 17 mai 97, 17 mai 2017, cela fait 20 ans exactement, depuis que l'AFDL avec Laurent Désiré Kabila à la tête renversa le régime du maréchal Mobutu. Ce dernier quitta le pouvoir après 32 ans de règne. 20 ans après, quel bilan dressé de l'action de l'AFDL sur les plans politiques, sécuritaires et socio-économiques? Pour en parler, je reçois M. Raphaël Guenda. Bonsoir, M. Guenda.
Bonsoir à tous et à toutes.
Merci. Je rappelle que vous êtes ministre honoraire de l'information et compagnon de lutte de M. Laurent Désiré Kabila. Vous étiez aussi chargé de l'exécution du programme dénommé Comité du pouvoir populaire CPP en sigle. Professeur Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur de l'opposition, inspecteur général du parti politique MLC. Vous êtes vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Joseph Kungolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 17 mai 97, les troupes de l'AFDL entrent à Kinshasa. La veille, le président Mobutu avait quitté la capitale pour se rendre à Agbadolité, d'où il est parti au Togo puis au Maroc. Après 32 ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu est renversé. 20 ans après, nous revenons dans ce dossier du jour sur ces événements qui ont marqué l'histoire politique du pays. Noéla Luzito.
Après 32 ans passés à la tête du pays, le président Mobutu a du mal à quitter le pouvoir, malgré l'avancée des troupes rebelles qui sont aux portes de la ville de Kinshasa ce vendredi 16 mai. La journaliste belge Colette Brackmann, que nous avons interrogée à ce sujet, affirme que le maréchal Mobutu a refusé un moment de quitter le pays. Il y a été forcé par son entourage.
Il ne voulait pas partir, il était malade, et je crois qu'on l'a embarqué dans son avion personnel avec sa voiture. Il était encore dans sa voiture, on a mis la voiture et le président dans un avion qui se sont envolés direction Badolite, et il était vraiment temps de partir parce que des balles ont frôlé le fuselage de l'avion. Donc l'avion est parti vraiment en dernière minute en catastrophe. Il s'est posé à Badolite.
C'est le porte-parole du gouvernement, Kinke Mulumba, qui va annoncer le départ du président Mobutu de la capitale le vendredi 16 mai dans l'après-midi.
L'AFDL et Angeli, elle va bientôt entrer, si j'ai bien compris. Au lieu que Mobutu décolle dans un sens, l'a décollé dans un autre. Non, la ville est prise. Alors qu'est-ce que je vais annoncer? Je crois que c'est mon dernier compte-rendu comme ministre. Alors j'annonce le départ de Mobutu du pouvoir. Je décide moi-même d'annoncer le départ de Mobutu du pouvoir.
Alors que des affrontements sont redoutés en pleine capitale entre les militaires zaïrois et les forces rebelles, la ville de Kinshasa va se réveiller dans le calme le 17 mai. L'entrée de l'AFDL n'occasionne pas le bain de sang tant redouté. Pour éviter des combats en plein Kinshasa, le chef d'état-major, le général Maëlé, a négocié en secret avec les rebelles. Colette Brackmann.
Maëlé avait secrètement négocié avec la FDL, probablement sous l'égide des Américains, pour éviter qu'on se batte dans Kinshasa et pour éviter que la guerre n'entre dans la ville, ce qui aurait fait beaucoup de victimes civiles. Ce qui fait que le général Maëlé a plaidé pour une entrée pacifique, parce que de toute façon, la situation était irréversible. Pour une entrée pacifique, ce qui s'est passé. Mais alors le fils du président Mobutu, Kongolo, a accusé le général Maïlé de trahison.
Accusé de trahison par des fidèles du président Mobutu, le général Maïlé est abattu le vendredi 16 mai dans la nuit. Contraint à l'exil après 32 ans de règne, le maréchal Mobutu est mort en septembre 1997 au Maroc, où sa dépouille repose dans le carré chrétien du cimetière de Rabat.
Merci Noéla Luzito Kabambi. Raphaël Guenda, vous êtes ministre honoraire de l'information et compagnon de lutte de M. Laurent Désiré Kabila. Vous étiez aussi chargé de l'exécution du programme dénommé Comité du pouvoir populaire CPP en sigle. Alors 20 ans après, quel bilan vous dressez de l'action de l'AFDL? Je vous propose que l'on commence par les aspects politiques et socio-économiques.
Il faut d'abord situer cette date dans son contexte historique. Parce que c'est très important pour que cette date puisse avoir toute sa signification. Je crois que l'Afrique en général et notre pays a connu principalement trois phases de domination étrangère. Il y a eu l'esclavage, où les Africains ont été vraiment transformés en êtres corvéables, etc. Il y a eu le colonialisme, oui, ce que nous appelons dans notre jargon le néocolonialisme. Et pendant ces différentes étapes, il y a eu constamment une lutte, une réaction de rejet à toutes ces formes de domination. Et le 17 mai, c'est l'aboutissement final de cette élite qui a abouti donc à une victoire pour nous libérer de toutes les servitudes que nous avons connues pendant toute cette période. Donc le 17 mai est une date glorieuse pour nous, Congolais, mais aussi dans le cadre de l'histoire africaine, pour les Africains aussi, parce que c'est quelque chose de valorisant. Alors maintenant, quand les révolutionnaires sont arrivés au pouvoir, je peux résumer les choses parce que ça serait beaucoup trop long. Nous ne sommes pas venus les mains vides, nous sommes venus avec un programme. Les révolutionnaires, comme le nom le dit, sont venus pour changer fondamentalement les choses sur le plan politique, culturel, social, économique. Et cette politique est fondée sur la philosophie d'auto-prise en charge, sur tous les plans. Sur le plan politique, il y avait les comités du pouvoir populaire pour évoluer dans une démocratie véritablement collée aux véritables aspirations de la population. Il y a eu, sur le plan économique et social, beaucoup de choses que je peux citer, hein, qui ont marqué la mémoire des beaucoup de Congolais. Vous avez vu quand ils sont venus, le militaire avait 100 dollars par mois et le pays n'est pas tombé en faillite. C'était dû juste par un nouveau système, une nouvelle conception de l'exercice du pouvoir. Nous avons, pour permettre aux Congolais de ne plus jamais importer ce qui lui est essentiel, c'est-à-dire la nourriture, nous avons mis en place des structures telles que le service national, les réserves stratégiques et les cantines populaires pour assurer une autosuffisance alimentaire, voire une sécurité alimentaire.
Monsieur Raphaël Dienda,
vous avez pu voir donc l'expérience sur terrain et ça a commencé à donner des résultats.
Monsieur Raphaël Dienda,
cette expérience révolutionnaire n'a pas duré longtemps. 97 à 2001, quand Mouvé disparaît. Donc, c'est en résumé ce que je peux vous dire sur ce que les révolutionnaires avaient comme projet.
Alors, 20 ans après, les révolutionnaires ont amené un programme pour changer fondamentalement les choses, c'est ce que vous affirmez. 20 ans après, qu'est-ce que vous pouvez en dire encore?
Bon, je crois que vous avez pu constater que quand nous sommes arrivés, nous avons organisé le peuple tel que je venais de dire ici, brièvement. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus important. Nous avons mené une campagne agressive d'éveil patriotique pour que la population prenne conscience de ses responsabilités en tant qu'être social. Et vous avez vu quand les agresseurs ont tenté de venir s'imposer ici, ils ont été mis en déroute par la population elle-même, sans que l'armée nationale puisse intervenir. Alors vous comprenez bien que cette campagne d'éveil patriotique avait eu des effets et demeure encore dans les Congolais d'aujourd'hui. Moi qui ai la bénédiction de ne pas être dans les affaires, je rencontre les gens, je discute avec eux et je constate que ce message est bien passé et bien gardé.
Alors,
je pense que 20 ans après, on peut dire que l'éveil patriotique est quand même passé, même si le résultat n'est pas toujours ce que nous avons souhaité.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que la révolution n'a pas duré 4 ans. Peut-on dire que vous, révolutionnaire, compagnon d'Emzé Laurent Désiré Kabila, vous ne voulez pas endosser le bilan de la suite du régime AFDEL, c'est-à-dire le bilan du pouvoir du président Joseph Kabila?
Bien, il faut distinguer deux choses. Je venais de dire qu'avec vous, nous avions un programme d'auto-prise en charge intégrale, tel que je venais de vous l'expliquer, économique, sociale, culturelle, etc. Avec le départ de Mouzé, il y a eu une autre donne, n'est-ce pas? Souvenez-vous qu'il y avait une guerre atroce à l'Est, et le pays devait être réunifié. Le pays devait retrouver son unité. Et pour ce faire, il fallait des concessions, et vous avez pu constater qu'il nous a donné 1 plus 4. Ce n'est pas le programme des révolutionnaires, mais c'est un programme conduit par un révolutionnaire et un programme responsable. Puis ça a permis justement de réunifier le pays et de booster un système démocratique qui nous est propre.
Merci.
Monsieur... Donc, je pense que ce qu'il faut retenir du régime actuel, d'abord, c'est le fait d'organiser le pays de manière démocratique. Ça, c'est très important.
Merci, M. Guenda. Je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Jacques Joly, vous êtes sénateur de l'opposition et inspecteur général du parti politique MLC. Vous êtes vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Vous venez de suivre M. Guenda. 20 ans après, quel bilan vous dressez de l'action de l'AFDEL sur les plans politiques et socio-économiques, pour commencer?
Merci beaucoup. Alain Rung, je salue le ministre honoraire Raphaël Guenda. Je suis heureux de l'entendre, mais je dois vous avouer que en l'écoutant, lorsqu'il parle de trois étapes de l'esclavage, du colonialisme et du néocolonialisme, je suis malheureux que l'AFDEL nous ait amené un néocolonialisme africain. Les Européens sont partis, mais l'AFDEL, ces conglomérats d'aventuriers, selon le propre terme de Mouzé, nous est amené une colonisation rwando-ougandaise et transformer notre pays en un champ d'exploitation des pillages des occupants. Je voudrais d'abord parler sur le plan politique. Oui, on peut saluer l'action de Mouzé, la chute d'un régime dictatorial, un régime le plus corrompu, comme on peut dire, mais 20 ans après, sur le plan politique, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Il parle de la démocratie, mais lorsque je l'écoute avec cette lecture de CPP, des pouvoirs populaires et marxisme, je ne sais pas... qui n'a plus lieu d'être, de parler des révolutions, ma foi, où sommes-nous? Nous sommes dans les années de la guerre froide.
Un socialisme pur.
Un socialisme, mais le socialisme est mort. Même la Chine, aujourd'hui, dans l'économie du marché. Donc, apparemment, nous avons été en face de suppôts d'un nouveau néocolonialisme, un néocolonialisme que nous devons payer cher. Sur le plan politique, nous ne sommes nulle part. La démocratie avait commencé le 24 avril 90. Il est vrai qu'il y avait des résistances. Et lorsque l'AFDEL est venu, pour le peuple congolais, on croyait qu'on allait avancer dans ce processus, mais c'était un recul avec les systèmes de CPP. Donc, des systèmes monopartistes qui éliminent tous les partis, qui renvoient les gens dans la boulouo, qui commencent à arrêter. Donc c'est le recul au plan économique, politique, et surtout nous sommes dominés. Nous sommes dominés par deux personnes qui se sont offertes comme agents d'exécution d'un plan de nos voisins. Ce sont des traîtres, c'est la haute trahison. Et au-delà de la politique, sur le plan économique, aujourd'hui, l'AFDEL a introduit une économie de traite, de sorte que si vous allez à l'Est aujourd'hui, vous allez trouver que toutes nos richesses sont pillées par ces agents. Le Rwanda est premier producteur du coltan. L'Ouganda exploite notre or à cause justement de la confusion créée par l'AFDEL. Sur le plan sécuritaire, depuis que l'AFDEL est arrivé ici, 20 ans de conflits, nos frontières sont devenues poreuses. Nous ne savons plus, avec cette armée brassée, mixée, qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous ne savons plus qui, aujourd'hui, on vous présente. Comment imaginer qu'en plein XXe siècle, à l'Irung, un officier rwandais a été mis à la tête de notre armée comme chef d'état-major général. Après, il devient chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Ça, c'est ce qu'on appelle la révolution. Plus grave, aujourd'hui, il y a des officiers, je prends le cas de Tangada, présenté comme un officier congolais. Donc, de l'AFDEL, on nous a laissé l'RCD, et l'RCD, le M23, et la DEF, et cette culture de la mort, de la banalisation de l'insécurité généralisée qui a quitté l'Est jusqu'à aller au Kassai où on découvre le macabre d'opérations qui ne sont pas de notre culture.
Professeur, quand vous dites que l'AFDEL a amené un néocolonialisme africain à travers la coalition rwando-ougandaise, passez-moi l'expression, est-ce qu'on ne parlerait pas des dommages collatéraux d'une révolution?
Mon cher ami, dommages collatéraux? Lorsque vous faites d'agent d'exécution d'un plan de déstabilisation de votre pays, c'est vrai qu'on peut y construire des alliances. Mais quand on fait une alliance, on n'amène pas le chef de cette armée, M. Kabarebe, qui a été chef de notre armée, et derrière lui, tous ces officiers qu'ils ont amenés, brassés, mixés, et aujourd'hui, nous n'avons plus d'armée. Nous ne savons pas. Parce que l'armée est fragilisée, comme Mouzé lui-même a dit, infiltrée. C'est vrai que Mouzé a pu se rendre compte pour essayer de faire partir ces gens-là. Mais c'était trop tard. Ils avaient fait déjà introduire le loup dans la bergerie. Et aujourd'hui, nous payons très cher, politiquement, économiquement, sécurité, sur le plan et même sur le plan social.
Vous avez suivi, professeur, le ministre Guenda dire que la révolution n'a duré que 4 ans. Après le 1+4, le pays avait une autre orientation, mais avec à la tête un révolutionnaire.
Mais ce sont les produits de l'AFDEL. Ce sont les succédanés de l'AFDEL. Et ce n'est pas par hasard que la journée d'hier est symbolique de ce mois de cette déchéance, que le jour où il fête 20 ans, ce sont les prisonniers, plus ou moins 4000, qui s'éparpillent dans la cité. Ils sont même incapables d'organiser leur réception. Donc je crois que...
Et donc pour vous, le bilan est...
Le 17 mai, c'est le jour de l'aliénation du peuple congolais. C'est une vaste escroquerie orchestrée par les pays voisins pour fragiliser le Congo, et le Congo aujourd'hui fragilisé. Tout ce que nous espérons, c'est d'arriver à l'alternance pour, n'est-ce pas, nettoyer les écuries.
Merci, professeur Jacques Joly. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Vous avez suivi le ministre honoré Raphaël Guenda et le professeur Jacques Joly. Quelle est votre analyse à vous?
Bien, merci beaucoup. Je salue le ministre honoré. Je salue aussi le professeur pour leurs interventions qui sont pertinentes. Et je voudrais dire, c'est vrai, le 17 mai porte une symbolique de libération. Mais je refuse un peu le mot révolution parce que le contenu de ce mot est autant fort et assez clair pour ne pas être confondu, n'est-ce pas, à ce que nous avons vécu le 17 mai. Mais je voudrais revenir à l'entrée de l'AFDEL. Il faut dire d'abord que l'AFDEL, qui est arrivé ici chez nous, il a bénéficié des contingences largement favorables, n'est-ce pas, pour pouvoir réaliser ce que appelle la révolution, c'est-à-dire des ruptures successives, du moins au niveau du régime et au niveau du système qui sous-tendait, n'est-ce pas, ce régime. Fort malheureusement, nos amis qui s'appellent, entre guillemets, révolutionnaires, sont arrivés ici, ils ont perdu la pertinence de l'idée force qu'ils avaient. Une fois en contact avec la gestion, ils ont perdu la pertinence de l'idée force qu'ils avaient. J'ai des preuves que c'était une charpente philosophique qui était perceptible, compréhensible, n'est-ce pas, c'est que le ministre venait de dire tout à l'heure, une charpente philosophique, n'est-ce pas, mais le fond, le contenu de cette charpente philosophique, si on voudrait voir la praxis de cette charpente philosophique, c'est pratiquement le contraire. C'est là que la révolution, n'est-ce pas, a perdu le nord, ou ce qu'ils appellent eux révolution, a également perdu le nord. Deuxièmement, il y avait, dans ces révolutionnaires qu'ils appellent, ils n'avaient pas maîtrisé cette idée force. La preuve, c'est que quand ils sont arrivés ici, ils n'ont plus continué, n'est-ce pas, à maintenir cette flamme qu'ils avaient au contact avec la gestion. J'ai vu mes pères, mes parents à moi, souffrir simplement parce que le président de la République lui-même, il gérait le fonds de la MIBA ici.
Et c'est lui qui venait chercher les fonds de fonctionnement de la MIBA. Il faisait 3-4 jours pour être reçu par le président de la République qui gérait les fonds à la présidence de la République. Ça montre que le sens de l'État n'y était pas. Mais au moins, une philosophie, n'est-ce pas, qui était au-dessus, n'est-ce pas, de ce mouvement. Troisièmement, c'est qu'il veut dire que cette charpente a dégénéré pratiquement dans un mécanisme sans âme patriotique. On n'a pas compris l'écho véritable, n'est-ce pas, de toutes ces charpentes philosophiques dans la population, dans la gestion. Quelques années plus tard, on a senti effectivement qu'il y avait du cafouillage, de l'imbroglio, ce qui a tiré, arraché les mots durs du président Moïse Kabila, parler des aventuriers. Je crois que ce n'était pas venu par hasard. Il a fait un constat, il a fait une évaluation de ce qu'ils appellent révolution. Quelques 3 ans plus tard, il a constaté que c'était pratiquement des aventuriers. Donc,
mais Joseph Kongolo, le ministre Raphaël Guenda a par exemple évoqué le fait que parmi les bons souvenirs que retient encore le peuple congolais aujourd'hui, c'est cet éveil patriotique.
C'est vrai, j'ai dit qu'il y avait une charpente philosophique, certes. Je suis d'accord avec
qui a transpiré jusqu'aujourd'hui.
Ah, mais tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait une charpente philosophique qui était compréhensible. Mais qui l'a entretenue? Qui a entretenu cette flamme aujourd'hui? Qui a entretenu par la suite? Des révolutionnaires sont arrivés et quand Kabila est mort, il n'y a pas quelqu'un qui peut le remplacer, n'est-ce pas, pour continuer à allumer cette flamme. Ce qui montre bien que, effectivement, c'était des aventuriers. C'est anormal que des gens se mettent ensemble. Deuxièmement, je voudrais un autre élément. Il y avait une dichotomie philosophique. Regardez à la naissance de ce mouvement. Parce qu'ici, on remonte un peu plus loin. Il y a une équipe des gens qui avaient leurs plans et leurs projets. Ils cherchent M. Kabila qu'on amène quelque part. On le plaque au-dessus d'un mouvement. Voyez-vous? Et ces gens, ils avaient leur mission. Il y avait leurs objectifs qui étaient de loin différents des gens qui représentaient ce mouvement, qui étaient à la tête de ce mouvement. Quand on a présenté Kabila, vous voyez le film qui passe sur les médias, on a présenté Kabila devant Museveni et les autres, eh bien on dit voilà, lui c'est un opposant congolais, il vient, il peut prendre la tête de ce mouvement. Mais en fait, à la naissance du mouvement, Kabila n'y était pas, voyez-vous. Et il y avait des objectifs souterrains que Kabila ne savait pas. Quand il arrive, nationaliste bien sûr qu'il était, il a amené des idées nationalistes, mais quand il est arrivé sur le terrain, il a compris effectivement que les objectifs n'étaient pas les mêmes. La preuve c'est que 2 ans plus tard, ou une année même plus tard, il y a eu séparation. Mais on se pose la question si on n'est pas revenu aux objectifs fondamentaux de l'AFDL aujourd'hui, que le pays est en train, n'est-ce pas, de se disloquer.
Alors, à vous comprendre et à suivre le ministre Raphaël Guenda, est-ce que la fracture ne serait pas intervenue au moment du 1+4?
Non, la fracture n'est pas intervenue au moment du 1+4. Pourquoi? Parce que après 1+4, ce sont les continuateurs qui sont venus au pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, ces continuateurs se sont enquistés dans le régime.
Mais à ce moment-là, la configuration politique change quand même. Joseph Kongolo, il y a un mixage entre les mobutistes, ceux qui sont venus avec l'AFDEL, ainsi de suite.
En principe, oui, c'est vrai qu'il y a eu mixage. Je le veux bien. Mais ce mobutiste était déjà défait. Il n'avait plus rien à présenter au peuple, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui portaient le régime, les porteurs du pouvoir, qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila et qui ont continué le mouvement de Laurent Kabila. Ils se réclament tous, n'est-ce pas, des continuateurs de Laurent Désiré Kabila, qui devaient imposer leur idéologie, qui devaient orienter le pays dans le sens, n'est-ce pas, de leur révolution. Malheureusement, aucun n'a soutenu ce mouvement, n'a soutenu l'idée force, n'est-ce pas, de ce mouvement. Ce qui fait qu'il y a eu faillite, non seulement de cette révolution, il y a eu faillite de cette révolution parce qu'elle n'a pas duré dans le temps. Et cette révolution a failli. Et ceux qui ont ramassé cette révolution, la preuve c'est que c'est la même révolution qui a englouti, n'est-ce pas, ses géniteurs. Et cette révolution aujourd'hui, elle est en phase d'engloutir la patrie.
Alors qu'est-ce qu'on peut considérer comme acquis de l'AFDEL 20 ans après sur le plan politique et socio-économique, pour vous?
Ce que je sais, c'est un concept. Pas un acte politique, un concept. C'est cet éveil patriotique aujourd'hui, et qui est l'autoprise en charge, n'est-ce pas? L'autoprise en charge de la population. C'est vrai qu'il n'était pas la première personne à parler de l'autoprise en charge, n'est-ce pas? Ce sont des doctrines qui circulent partout, mais il a donné de la chair, n'est-ce pas, à cette réalité philosophique, et je crois que la population s'en est appropriée. Là, pour moi, je peux dire que c'était quelque chose de positif, mais malheureusement, qui n'a pas des gens qui entretiennent, n'est-ce pas, ce mouvement.
Merci. Raphaël Guenda, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Moi, Ghislain Mayoka, je vous appelle à partir de la ville-province de Kinshasa. 20 ans après, c'est l'insécurité avec plus de 6 millions de morts le tribalisme, la corruption, l'injustice, pas de soins de qualité ni accès à l'eau et de l'électricité, les répressions sanglantes, enlèvement, chômage, fraude fiscale et douanière, les banques escroquant les pauvres et misérables peuples, cas de la BIAC, l'armée et la police au service des dignitaires de la mouvance, les évasions carcérales, etc.
Monsieur Guenda, j'ajoute cette réaction de Lasconi et Lanza qui dit le 17 mai, c'est un mauvais souvenir, cette date est le point de croissance des misères et antivaleurs que nous connaissons aujourd'hui. On doit chaque année décréter un deuil national à cette date et non une fête.
Bon, je pense que vous avez interviewé certaines personnes qui ont leur point de vue, mais que tout le monde ne partage pas toujours. Parce que parmi les trois personnes que vous avez interviewées, je crois qu'ils parlent le même langage. Ils obéissent, n'est-ce pas, au réflexe culturel que nous connaissons ici, de la part de ce qu'on appelle le microcosme intellectuel et la crème de crème, etc. Et que tout ce qui s'est fait dans notre pays, dans notre histoire, doit avoir des références essentiellement de la culture occidentale. Et par cette manière d'aborder les choses, on véhicule la volonté politique de toutes ces puissances qui ont une mainmise et qui sont les premiers responsables de tout ce qu'ils sont en train de dénoncer ici. Par exemple, l'insécurité à l'Est, qui ignore que derrière tous ces groupuscules, tous ces petits pays-là, ce sont des puissances étrangères. Ça a été prouvé A à Z. Et la culture politique issue du colonialisme et du néocolonialisme de 37 ans, pas 32 ans, de 37 ans, a façonné la classe politique avec laquelle nous avons affaire aujourd'hui, où moi j'ai dit personnellement, il n'y a pas d'opposition ici, il n'y a pas de majorité, il y a tous, c'est complète, et comme vous avez dit, ce sont des gens qui se connaissent, qui font la complaisance et qui répriment les autres. C'est ça? Il y en a qui parlent de conglomérat d'aventuriers, mais c'est de la mauvaise foi. Il faut relire, et comme c'était un discours qui avait été filmé, alors suivez ce discours attentivement. Soyez, ayez une honnêteté intellectuelle de reconnaître et de replacer les choses à leur place. Mouzet n'a jamais dit de manière affirmative que ceux qui sont venus avec lui, c'est un conglomérat d'aventuriers. C'est tout à fait faux. Réalisez dès que vous aurez terminé le discours, visionnez le discours. Mouzet avait dit que pour des raisons tactiques, nous avons accepter beaucoup de choses de la part de nos alliés qui nous ont accompagnés. En plus de cela, l'action de l'AFDEL était un grand mouvement, un mouvement gigantesque qui ne pouvait qu'attirer beaucoup d'aventuriers. Mais à la tête de cette structure, il y avait des grands stratèges.
Monsieur Guenda.
On disait les choses et qui était conscient de tout cela.
Monsieur Guenda.
Une fois arrivé au pouvoir, vous avez vu comment les aventuriers ont été traités et ils se sont illustrés eux-mêmes en prenant la fuite.
Monsieur Guenda.
Alors donc, il faut nous rendre justice que nous avons conduit cette révolution qui a permis le changement dans notre pays et nous avons amorcé une démarche révolutionnaire de changement profond.
Monsieur Guenda, vous dites que le pays, il y avait certes des aventuriers qui se sont engouffrés dans la brèche de l'histoire révolutionnaire du pays, mais à la tête, il y avait des grandes personnalités, mais vous avez suivi Joseph Kongolo, ainsi que le professeur Joly d'ailleurs, qui ont évoqué le fait qu'il n'y avait aucune appropriation de cette idéologie, et il s'en est suivi une faillite dans la pérennisation idéologique également.
Quand le président Touré a pris le pouvoir, il n'a pas dirigé seul. Il a dirigé avec ceux qui étaient au pouvoir dans ce pays pendant 32 ans. N'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui.
Merci, M. Guenda. Professeur Jacques Joly a pour vous cette réflexion qui vient de Kalemi.
À Kilimali, Kikoma, Patrick, depuis Kalemi, dans la province du Tanganyika. À mon humble avis, on ne peut pas faire un bilan de l'Abdel pendant 20 ans, alors qu'elle n'a dirigé que pendant 4 ans. Mais on salue l'avènement du président Kabila, qui améliore la situation petit à petit, bien qu'entouré par les Mobutistes. Il se démarque malgré quelques difficultés qui ne manquent pas partout au monde. Si l'on peut l'inclure dans le rang des leaders de l'AFDEL, il y a une avancée de taille par rapport à l'époque de Mobutu.
Professeur Joly.
Mais je voudrais bien palper ces avancées. C'est vrai que l'AFDEL est venu. Mais le mal de l'AFDEL, c'est un mal génétique. Lorsque j'entends mon frère Guenda parler de petits pays, mais c'est quand même malheureux parce que c'est ces pays qui a, n'est-ce pas, planifié, servi de porte-avions, jusqu'à devenir ici occuper le cœur du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, ces mal génétiques, ces cancers, ça va se métastaser. Lorsqu'on regarde la composition de l'AFDEL d'origine, d'abord, ils ont constitué ces mouvements où ? Au Rwanda, les Mera. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus ? Nous voulons savoir jusqu'aujourd'hui. Et les quatre premiers, Massasu, Ngandou, Bouguera et notre frère Mouzé, ben, il va se retrouver justement avec des agents du néocolonialisme pervers africain qui sont entrés non simplement de nous piller économiquement, mais qui ont perverti notre système politique qui était une démocratie avant de se construire, mais qui va revenir à des mécanismes de domination de type politico-militaire. C'est cette culture-là qui est aujourd'hui à la base, n'est-ce pas, de notre déroute. Aujourd'hui, toute notre économie à l'Est est totalement embrigadé par ces réseaux mafieux, militaro-politico-militaires, qui ont des relais et qui ont trouvé, n'est-ce pas, assise à partir de l'action de l'AFDEL. Lorsque vous introduisez la mauvaise graine, elle germe. Et c'est ça aujourd'hui. Nous voulons bien parler de la libération. Mais cette libération qui nous amène une aliénation. Mon cher ami, comment voulez-vous que, après l'AFDEL, nous avons l'RCD, qui nous laisse les Moutéboussi, les Kounda Batware, après, nous avons le CNDP, et ces officiers qui sont là, et puis maintenant nous avons les ADEF. Tout ça, ce sont le produit de l'action de l'AFDEL qui va maintenant jusqu'à métastaser dans le Kassai.
Alors, professeur, après le 1 plus 4, il y a des personnalités se réclamant de l'idéologie révolutionnaire de Mzé Kabila qui prennent le pouvoir, qui organisent les élections, la vie institutionnelle du pays, dont le Sénat est l'une des émanations. Est-ce que vous n'en êtes pas fier?
Non, les 1 plus 4, c'est la résistance au système AFDEL. Les gens qui sont restés ici, qui ont compris que nous étions en train d'aller en déroute, vont prendre aussi les armes. Et nous allons conclure la paix de Brave pour essayer, n'est-ce pas, de faire arrêter la dérive qui était déjà là. Mais le système, justement, n'a le 1 plus 4 grâce à la communauté internationale et à quelques fils, nous allons construire un système qui tente de tenir. On organise les élections en 2006, en 2011, mais c'est sur un fond, parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'AFDEL, que l'AFDEL nous a créé deux problèmes, parce que si vous voyez l'ensemble de la partie orientale de notre pays, est totalement déstabilisé et c'est une économie qui est pompée. Je crois qu'il y a une dernière mission du gouverneur de la Banque centrale, du ministre de l'Intérieur, qui vient encore d'affirmer cet ancrage négatif de notre économie de l'Est à travers ces réseaux mafieux politico-militaires. Donc c'est ça l'héritage négatif de l'AFDEL. Il est vrai que Mouzé lui-même a été submergé. Et que derrière lui, il n'y a pas eu un schéma, comme a dit mon ami, pour prendre en charge ces concepts
d'appropriation.
Donc, finalement, aujourd'hui, le système s'est métastasé. Les enfants de Mouzet, je suis désolé de parler de Guenda, des autres, eux-mêmes ne sont plus dans le système.
Merci.
Le système est pris en charge par d'autres réseaux.
Merci,
voilà.
Merci professeur Joseph Kongolo. Il y a pour vous cette réflexion qui nous vient une fois de plus de Kalemi.
Je m'appelle Pierre Cabre, j'appelle depuis Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le village adressé de l'action de l'AFDL 20 ans après est mitigé. À mon avis, l'AFDL avait l'idée de libérer le pays de la dictature, mais dans son sein, la démocratie n'y était pas. Comme preuve, le pays est en train de vivre presque la même dictature du régime de Mobutu, ce qui est pire encore, l'insécurité grandissante. Et l'œuvre de l'AFDL qui nous a laissé partout sur l'étendue nationale des groupes d'autodéfense qui se transforment en groupes armés et qui sèment la désolation. Je suis convaincu qu'il nous faut encore un musée pour réformer le pays.
J'ajoute, Joseph Kongolo, cette réaction du professeur Ignace Ndala qui nous écrit de Kolwezi. Il dit « Il faut reconnaître que des avancées sont visibles sur le plan politique, mais beaucoup plus de gestes de consommation extérieure qui n'ont pas d'impact positif. Il y a plus d'intentions que d'actions solides. La sécurité trace le tableau d'un pays fragile, aussi bien en interne qu'aux frontières. Quant au plan socio-économique, la courbe est décroissante. Après quelques lueurs d'espoir dans les quatre premières années, la croissance économique théorique a laissé place à une misère sans précédent, donc le tableau est très opaque.
Bien. Merci beaucoup. Je crois que la réflexion de notre ami de Tanganyika a repris pratiquement ce que le professeur Hénédi dit tout à l'heure. Donc il faut dire qu'il y a une faillite de ce mouvement. C'est pourquoi je n'aime pas l'appeler révolution. Une révolution qui mange ses enfants, une révolution qui a en phase aujourd'hui d'engloutir la patrie elle-même, ce n'est plus une révolution. C'est plus une révolution. Voilà pourquoi je confirme, j'ai dit que c'est une bonne analyse, ce que notre ami de Kalemi a fait.
Alors, excusez-moi Joseph Kongolo, vous avez toujours la parole. Puisque vous dites que ce n'est pas une révolution, quels sont les préalables pour ou les prémices d'une bonne révolution?
Voilà, je crois que c'est là qu'il fallait poser la question. Je crois qu'une révolution, je l'ai dit dans mon introduction, ce sont des ruptures successives. Ruptures dans les systèmes, l'ensemble des microcosmes sociaux, dans les orientations, dans les attitudes politiques, n'est-ce pas? Dans les comportements, les schèmes politiques. Voilà, quand il y a une rupture, un arrêt et un nouveau commencement, là qu'il y a rupture. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de révolution tant que l'avant AFDL, aujourd'hui, c'est le même, égal à après AFDL aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes restés dans le système de Mobutu. Dans le système de Mobutu, il y a la corruption, la concussion, le détournement, les antivaleurs qui fondent aujourd'hui le système de gestion du pays. Alors, en ce moment-là, il n'y a pas révolution. La révolution, c'est une rupture, un arrêt pour un nouveau commencement.
Alors, le professeur Joly a parlé d'une métastase. Est-ce que l'implication des Mobutistes n'a pas contribué à renforcer cette métastase?
Si les Mobutistes ont contribué à influencer sensiblement un régime qui se veut révolutionnaire, ça montre qu'il n'y a pas d'évolution non plus, ou l'idée force, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée force, c'est qui sous-tend une révolution. C'est une idée. Et quand les continuateurs, les gens ne savent pas défendre valablement cette idée et la partager avec les autres, n'est-ce pas, l'acheminer dans l'autre, n'est-ce pas, pour qu'il en soit propriétaire, en ce moment-là, l'idée force faillit. Et là, vous êtes mettant à la merci de tout autre courant, tout autre mouvement. Et les Mobutistes, les gens rodés dans le système, ils ont récupéré la situation. C'est comme ça que le professeur a parlé des réseaux qui contrôlent, n'est-ce pas, l'héritage de Kabila. Vous voyez, donc il faut dire qu'il y a une faillite totale, faillite d'hommes et faillite du système, et faillite d'idées même. Voyez-vous, en ce moment-là, il n'y a plus rien aujourd'hui. Par contre, quand il y a faillite d'une révolution, ça veut dire que c'est la phase contraire, ça veut dire que c'est l'engloutissement. C'est l'engloutissement et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui où la patrie est menacée, l'État est menacé dans ses fondements. Il est menacé dans ses fondements aujourd'hui. Voilà le revers, n'est-ce pas, d'une révolution ratée. Non seulement elle engloutit ses géniteurs, elle est en face d'engloutir la patrie aujourd'hui si on n'y prend pas garde.
Alors comment vous analysez le fait, Joseph Kongolo, que le professeur Jody a appelé les enfants de Mouzet, les héritiers politiques de Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui soient écartés de la gestion du pouvoir?
Qu'est-ce qu'ils présentent encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils défendent l'idée qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils présentent à ce régime? parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est le fils biologique de Kabila, et en même temps, le fils philosophique de Kabila. Il est aussi, n'est-ce pas, enfant de Kabila, sur le plan politique. Qu'est-ce qui fait que, qu'il y ait cette distance entre eux et les autres? Il y a un problème. Ou bien, ils ont vu la nudité du roi. En ce moment-là, ça devient difficile de vivre ensemble.
Peut-être une volonté de vouloir gérer les choses autrement.
Je crois que cette question qu'il faut bien répondre, c'est que j'ai dit, c'est qu'il ne présente plus quelque chose, n'est-ce pas, de valable aux porteurs du pouvoir actuel pour pouvoir s'intégrer dans le système. Ils sont éjectés par le système, évidemment, par l'évolution rapide des choses, et surtout, je l'ai dit au départ, les objectifs de départ de l'AFDEL n'étaient pas, n'est-ce pas, le nationalisme de Kabila. Parce que Kabila a été quelqu'un qu'on a placé, n'est-ce pas, sur un mouvement dont il ne connaît pas les origines. Ça, il faut le dire.
Raphaël Guinda, vous avez une fois de plus suivi le professeur Djoli et Joseph Kongolo. Comment vous comprenez ou vous percevez le fait que vous, héritier politique de Laurent Désiré Kabila, vous soyez écarté de la gestion du pouvoir?
D'abord, il y a des précisions qu'il faut apporter.
Très rapidement, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps.
On parlait de l'AFDEL 20 ans après. Mais l'AFDEL a été dissoute en 1999 pour donner naissance au comité du pouvoir populaire qui devait concrétiser sur terrain les projets de société conçus par l'AFDEL, mais cette fois-ci, l'AFDEL ayant pris le pouvoir, il devait donc concrétiser son projet de société. Le comité du pouvoir, c'était quoi? C'était l'organisation du peuple dans toutes les entités administratives du pays, sans tenir compte des couleurs politiques de qui que ce soit. Vous vous souviendrez que nous avions suspendu les activités des partis politiques. Nous n'avons jamais dit que nous supprimons les partis politiques.
Monsieur Guinda, s'il vous plaît. Monsieur Guinda.
Après le départ de Mouzet, n'a pas de sens.
Alors,
l'AFDEL avait pour raison d'être l'organisation de la lutte armée et la prise du pouvoir.
Alors, en un mot,
Monsieur
Guinda.
Alors, pour exercer le pouvoir, c'était le projet de société de l'AFDEL qui intervenait avec les comités du pouvoir populaire. Donc, ce moment-là, soyons d'accord.
Merci, M. Guinda. Souffrez que je considère ça comme votre conclusion, puisque l'émission va toucher à sa fin. Professeur Jacques Joly, dans la suite, une révolution a eu lieu. Comment vous entrevoyez la suite du pays après cette action de l'AFDEL?
Mais je crois que notre ami vous a dit qu'il ne faut pas parler de la révolution. Ceux qui sont avenus avec l'AFDEL, ce sont des agents d'exécution d'un plan rwando-ougandais du capitalisme local ou de ce qu'il appelle le colonialisme. Donc aujourd'hui, l'alliance de ces profito-situationnistes avec le recyclage de quelques mobutistes, et aujourd'hui ça nous donne une bouillabaisse idéologique. Voilà pourquoi il est important que rapidement il faut arriver à l'alternance pour arriver à une alternative et relancer notre pays sur des bases beaucoup plus saines.
Merci.
Et oublier totalement cet épisode de domination et d'occupation de l'AFDEL.
Merci, professeur Joseph Kongolo. Le professeur Joly parle du recyclage de quelques mobutistes qui ont pris fait et cause pour la suite de l'AFDEL. Est-ce que les mobutistes ne devraient pas tirer plus de leçons que les autres?
Oui, mais en principe, ils devaient tirer beaucoup plus de leçons, mais ils restent plus forts parce que ils avaient d'abord une expérience prouvée dans la gestion du pays, et ensuite, ils se sont trouvés devant des gens qui avaient des idées, mais qui n'avaient pas la compétence voulue pour le faire. Ils ont été phagocytés.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la mise en onde, Guy Maté qui a réalisé cette émission, assisté de Mary Franklin Luchaka sous la supervision de Peleki Pelamondo, présentation et coordination, Alain Irung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.